Bonjour Hubert Védrine.
Bonjour.
Il y a tout juste un an, le monde entier et une partie des États-Unis apprenaient avec stupeur et une certaine appréhension que Donald Trump venait de remporter l'élection présidentielle. Un an après, pour ne parler dans un premier temps que de la forme, on peut dire que c'est une présidence atypique.
Oui, on peut dire au moins ça, c'est un euphémisme en tout cas. Mais l'effet de stupeur dont vous venez de parler, de sidération, n'est pas tout à fait surmonté. Les démocrates n'ont toujours pas compris ce qui s'était passé, même si un tout petit débat qui pointe chez eux avec difficulté sur le fait de savoir si, en se préoccupant des minorités, ce qui était bien compréhensible, ils n'ont pas laissé en route les classes populaires et les classes moyennes. Bon, et puis tous les progressistes mondiaux, toute l'Europe, toute la bien-pensance mondiale par ailleurs, est toujours stupéfaite de cette élection. Alors que le monde, il continue, Trump est là et il faut bien s'organiser. Je pense à d'ailleurs que, après l'élection, certains avaient dit « mais les grands électeurs ne vont pas confirmer le vote », ce qui était absurde. Après, ils ont commencé à parler d'impeachment quasiment avant même qu'ils soient à la Maison-Blanche. Et donc, vous voyez, il y a une partie du monde qui n'arrive pas à réaliser que. Mais les gouvernements dans le monde, ils sont obligés de faire avec. Et il est clair, en tout cas, que Trump n'a pas du tout l'intention de se professionnaliser. D'ailleurs, il a l'œil fixé sur sa base. Et sa base électorale, elle tient bon.
Il reste fidèle à son slogan de campagne, « America first », l'Amérique d'abord.
Alors ça, c'est autre chose parce qu'il n'y arrive pas vraiment.
Il n'a atteint aucun objectif. Oui, mais il essaye.
Il essaye. En tout cas, il a une attitude protestataire, contestataire. On va foutre en l'air tous les gars de Washington et puis le monde entier, on s'en fiche. Enfin, c'est ce que veut sa base, en fait. Et pour le moment, sa base a l'air satisfaite de cette attitude, de cette provocation, sans s'interroger sur les effets, sur les résultats. Ils sont certainement contre-productifs. Alors, tous les gens qui détestent Trump, à commencer par les grands journaux de la côte Est et de la côte Ouest, passent leur temps à accumuler les articles pour démontrer que c'est n'importe quoi. Il y a même des psychiatres qui disent qu'il est fou, parce que la tentation de psychiatriser le sujet fait partie de cet effet de sidération. Ils n'arrivent pas à réaliser qu'il est vraiment là, et qu'il est là pour un certain temps. On peut rien exclure, en plus, vous voyez.
Alors, oui, parce qu'il paraît qu'il envisage déjà de se représenter.
Donc. Oui, alors on peut dire l'impeachment, c'est très compliqué, parce qu'ils n'ont jamais la majorité au Sénat, mais enfin, on ne peut pas l'écarter absolument. L'implosion du système, ce n'est pas écartable. La professionnalisation, c'est complètement improbable. Et on ne peut même pas écarter la réélection si les démocrates n'arrivent pas à surmonter les contradictions qui restent chez eux très, 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 très fortes.
Mais
tout est possible.
Pour plaire à sa base, il tente des choses. Enfin, il fait même des choses. Il s'est retiré de l'accord de Paris. Ça, par exemple, sur le climat, ça plaît à sa base.
Oui, il a retiré de l'administration, mais pas les États-Unis. Les États-Unis continuent, les grandes villes, les grandes entreprises, etc. L'accord sur l'Iran, il peut le fragiliser beaucoup plus.
Précisément, je voulais vous en parler.
Il s'est retiré parce que les États-Unis sont absolument souverainistes.
Ouais.
Les gentils européens de l'Ouest, un peu bisounours, ils ont du mal à comprendre ça. Le monde entier est souverainiste. Et les États-Unis particulièrement. Mais la Chine aussi, Israël aussi, etc. Bon. Donc, il retire les États-Unis de tous les lieux où ça entraîne des engagements coopératifs, partenariaux, etc. Et les organisations où ils n'ont pas le veto, genre UNESCO, ils se retirent. Oui, ça, c'est une attitude qui plaît à sa base, c'est sûr.
Vous avez évoqué l'accord sur le nucléaire iranien. Qu'est-ce que cherche Donald Trump sur ce dossier-là?
Alors d'abord, il y a une sorte d'acharnement contre le bilan de Barack Obama. Deuxièmement, il y a une sorte d'alignement, semble-t-il, sur les thèses du Likoud en Israël. Et donc, l'Iran est l'ennemi numéro un. En accusant l'Iran d'être responsable du terrorisme, et alors ça fait quand même très longtemps que c'est pas le sujet principal en matière de terrorisme, puisque c'est évidemment une gigantesque convulsion à l'intérieur du monde sunnite, et même les Saoudiens s'aperçoivent qu'ils ont joué au Frankenstein en finançant pendant des décennies et des décennies l'interprétation la plus régressive de l'islam, c'est le wahhabisme, qui conduit par étapes successives, éventuellement à la violence, qui se retourne contre eux.
Bon.
Et donc Trump est à la tête d'une sorte de coalition entre Trump, les Wahhabites et le Likoud contre l'Iran. Donc il est clair qu'il veut casser l'accord. Est-ce qu'il peut? Il y a quand même d'autres co-signataires. Il n'ose pas prendre la responsabilité complète puisqu'il a refilé le bébé au Congrès. Mais il voudrait pouvoir le casser. Les États-Unis, vous savez, il y a une sorte d'état profond aux États-Unis. On parle de l'expression quand on en parle de la Turquie, souvent. Mmh. Mais il y a un état profond. Les agences, le Pentagone, le département d'État. Et là, le Parti républicain. Ils ne pardonneront jamais à l'Iran. Et ces gens-là détesteraient que l'Iran puisse se moderniser sur la ligne Rouhani. Donc ils sont alliés objectifs des Pasdaran. Ils ne veulent pas vraiment de l'accord parce qu'ils perdent leur force si l'Iran s'ouvre et se normalise. Et sur la Russie, ils sont très très déterminés aussi à empêcher toute normalisation. Mais Trump voulait avoir des relations plus pragmatiques avec la Russie. Dans le cas de l'Iran, c'est l'inverse. Donc ils peuvent tenter de casser l'accord. Et le grand test des semaines à venir, c'est est-ce que les autres co-signataires sont capables de le faire vivre sans les États-Unis.
Alors, il y a un autre dossier qui est assez brûlant, c'est la Corée du Nord, bien entendu. Est-ce que vous arrivez à y voir clair sur le jeu que conduit Donald Trump sur ce sujet-là?
Alors, d'abord, la crise de la Corée du Nord et l'inquiétude que cela provoque, à mon avis, masquent le véritable affrontement à moyen et long terme entre la Chine et les États-Unis. Les États-Unis voudraient endiguer la montée de la Chine, ils ne savent pas comment, et la Chine veut pousser ses pions et se développer maintenant à visage découvert, puisqu'ils ont abandonné la discrétion qui était de mise, la retenue qui était mise depuis Deng Xiaoping. L'affaire de la Corée, qui est une affaire conjoncturelle, hein, qui ne change pas la question à long terme, bouleverse un peu les cartes parce que Trump a pris des postures martiales par rapport à son opinion, ça n'a pas d'effet, bon, et il est obligé de jouer avec la Chine. En fait, et d'ailleurs, dans l'étape en Chine, il a eu un ton plus modéré, vous avez vu, sur l'affaire de la Corée. Et la Chine est maîtresse du jeu, quand même, dans l'affaire. Alors, la Chine est exaspérée, semble-t-il, par la Corée du Nord et ses provocations, mais elle veut absolument pas que le régime s'effondre, que tout soit contrôlé par la Corée du Sud et les États-Unis, avec les forces américaines à sa frontière. Donc, la Chine rêve certainement d'une Corée du Nord qui est toujours là, mais sous contrôle et moins provocante, mais qui n'est pas dans le système de sécurité américain en Asie. Puisque le but de la Chine, comme au jeu de Go, c'est de faire reculer petit à petit l'implantation américaine. Donc ce que dit Trump est variable d'un jour à l'autre.
Est-ce qu'il y a un risque de guerre? Il y a des experts aujourd'hui américains qui disent que le risque de guerre est non négligeable.
Oui, non négligeable, on peut le dire comme ça, puisqu'il peut y avoir un incident à un moment donné, à un endroit, entre deux avions, entre deux bateaux, etc. Je ne vois pas Trump se lancer délibérément dans une escalade. Et je ressouligne, ce qu'il a dit en Chine, donc c'est l'endroit important du parcours, ce qu'il a dit en Chine est plus modéré sur l'affaire de la Corée. Donc il essaie de retrouver dans la pagaille, le magma de ses déclarations et de ses tweets, il essaie de retrouver un fil conducteur qui serait une sorte d'arrangement de facto avec la Chine sur ce point.
Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut mettre à l'actif de Donald Trump?
Ben, ça dépend si vous êtes un électeur de Trump ou pas, si vous êtes un...
Non, c'est à vous que je
demande. Ça dépend, parce que dans le monde... Alors, les électeurs sont contents, les élites, côte ouest, sont toujours, on a dit, pas sortis de la sidération. Dans le monde, il y a quand même Netanyahou, que j'ai cité, qui est très content, les Saoudiens, qui sont très contents, les Japonais, qui sont assez contents.
Oui.
Les Polonais, ils le trouvaient pas mal au début, mais comme il a émis des doutes sur l'automaticité de la protection via l'article 5, ils sont un peu partagés. Donc il y a quelques puissances dans le monde, ou leaders dans le monde, et qui sont assez contents de Trump. Donc c'est pas zéro. Alors les autres sont plutôt embarrassés. Les Mexicains et Canadiens sont très très embêtés par son attaque sur l'accord Alena. Puis les autres, ils essaient de se débrouiller alors avec des tactiques variées, du genre est-ce qu'il faut s'opposer à lui ou faire semblant d'être son copain. Bon, il y a une série de tactiques diverses.
Faire semblant d'être son copain, vous pensez à quelqu'un en particulier?
Je pense qu'Emmanuel Macron est assez habile dans l'affaire. Parce qu'au lieu de le prendre de front, il lui a organisé un séjour à Paris auquel Trump a été sensible, défilé, Tour Eiffel, tout ça. Bon. Et c'est pas idiot parce que ça peut rendre Trump... Disons, ça évite une agressivité de Trump qui aurait pu se développer contre la France. Et donc c'est pas mal. Ça fait pas changer globalement le paquebot américain, vous voyez. Donc les gens dans le monde s'accommodent de Trump.
Merci Hubert Védrine. Bonne journée.